Bonjour et bienvenue sur YogiBiz Podcast, le yoga teacher training du marketing pour les yogipreneurs qui veulent impacter des millions de vies positivement grâce au yoga. Je suis Cécile, coach et accompagnatrice digitale spécialisée pour les professeurs de yoga. Et chaque semaine, je vous délivre des inspirations, stratégies et conseils marketing éprouvés et applicables immédiatement pour vous construire un business de yoga authentique et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti! Hello et bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de YogiBiz Podcast. Si tu as écouté le dernier épisode, tu sais qu'on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre série dédiée à la rentrée des professeurs de yoga. Hier, mon invité était Coralie. Aujourd'hui, j'invite Eva. Et demain, tu auras un épisode avec Perrine. Trois profs de yoga pour t'aider à préparer une rentrée réussie avec chacune un profil différent. Donc, Coralie, professeure de yoga indépendante avec ses propres cours en présentiel et des offres en ligne. On a Eva aujourd'hui qui a repris, après une expérience des studios parisiens, qui a repris aujourd'hui aussi dans le sud des créneaux en studio, qui organise également ses propres événements, ses propres retraites et développe des formations et des programmes en ligne. Ou encore, tu pourras retrouver Perrine, gérante de studio, et puis elle a aussi des yoga teacher training, 200 heures, 300 heures, ou encore des modules 30 heures, 100 heures d'Ashtanga par exemple, qui arrive bientôt. Donc vraiment, quel que soit ton profil, il va y avoir des réponses pour toi dans ces trois épisodes. Et d'ailleurs, je te conseille de binger les trois, peu importe quel type de yogipreneur tu es, parce que dans chacune de ces discussions, tu trouveras des idées, tu trouveras du mindset, tu trouveras des retours d'expérience, bref, de l'inspiration pour toi et pour ton quotidien et ta carrière de prof de yoga. Alors, dans ces épisodes, on va aborder évidemment l'organisation de rentrée avec des questions comme voilà, quand est-ce qu'il faut vraiment commencer à organiser cette rentrée, c'est quoi le rétro-planning, à quoi tu dois te préparer, quelle est la checklist finalement des indispensables de la rentrée, où est-ce que tu devrais concentrer tes efforts, mettre ton focus, qu'est-ce qui t'attend sur cette période, quels sont les pièges dans lesquels ne pas tomber ou encore les erreurs à éviter. Donc vraiment, comment anticiper, planifier, organiser tout ça de manière idéale. Et d'ailleurs, on a même prévu de pouvoir t'aider à rebondir en cas de rentrée ratée ou de début d'année difficile. Parce que tu le verras finalement, est-ce que tout se joue sur le mois de septembre? Eh bien, absolument pas. Voilà, comme ça, le spoiler, il n'y en a plus. On abordera aussi des conseils pratiques sur la préparation des cours de rentrée. On en a surtout beaucoup parlé, ça, avec Coralie, hein, quoi mettre à l'intérieur en termes de structure de cours. Mais on parlera aussi donc de comment établir un planning efficace, comment organiser peut-être tes journées, tes semaines, comment communiquer avec tes élèves. Et d'ailleurs, ça, c'est aussi intéressant. Si ce n'est pas tes propres cours et que tu donnes tes cours en studio, qui communique le studio, toi, pourquoi, à quelle fin, vraiment, quoi définir comme offre, comme tarif de rentrée, comment susciter l'engouement chez tes élèves pour qu'ils viennent à tes cours, pour qu'ils s'inscrivent à tes offres, tout en gérant en même temps sur cette période-là ton temps et ton énergie, parce que c'est que le début de l'année peut-être, et donc tu vas en avoir besoin. Si tu démarres dans l'enseignement du yoga, on va parler d'ailleurs beaucoup aujourd'hui dans cet épisode de comment démarcher les studios. Est-ce qu'il est trop tard d'ailleurs pour le faire à cette période-là de l'année? Comment choisir aussi tes créneaux, les studios dans lesquels tu vas travailler? Peut-être aussi comment te présenter? Qu'est-ce qui va faire la différence? Oser parler prix, oser aussi et faire le nécessaire pour construire des relations durables avec les studios. Et puis voilà, est-ce qu'il faut vraiment tout accepter quand on débute? Est-ce que c'est la solution d'avoir 15 heures de cours de yoga dans ta semaine? Eh bien, vraiment, ça, c'est des sujets qu'on va aborder en long, en large et en travers avec Eva, qui a une vraie expérience de cours en studio et notamment sur Paris. Donc, je pense que vraiment, dans ces trois épisodes, on couvre pas mal de questions que tu te poses et tu verras un max de valeur, un max d'expérience, des conseils vraiment pragmatiques, des conseils du terrain. Vraiment, tout ça, c'est cadeau, c'est pour toi et c'est pour t'aider à réussir ta rentrée et à démarrer cette nouvelle année du bon pied. Tu le sais, si tu as écouté l'épisode d'hier en parlant de cadeaux, moi je t'offre ma formation complète, la méthode 50K, qu'elles offrent créée pour atteindre 50K de chiffre d'affaires avec moins de 50 clients. C'est une formation complète offerte de plusieurs modules. Il y a 3 heures de formation, donc c'est rapide. Tu peux faire ça en une demi-journée avec les exercices. C'est vraiment le raccourci et la formule que tu dois comprendre et qui va t'aider à développer un business de yoga dans le temps, à atteindre tes objectifs de revenus, mais aussi à les atteindre en ayant un quotidien qui va te permettre d'arrêter de courir après toujours plus de clients et qui va te permettre de profiter plus de ton temps, de tes proches, peut-être de la liberté aussi que tu souhaites si tu as envie d'avoir un business et pour autant de continuer à te former, de voyager, de pouvoir partir en vacances et que ton business continue de tourner, donc vraiment sans sacrifier tes objectifs de vie et tes priorités à toi. C'est une méthode qui est issue des résultats que j'ai eu avec mes clientes. C'est du 100% terrain, c'est du 100% testé et approuvé. C'est vraiment là pour te faire gagner du temps dans le développement de ton business de yoga et pour que tu te construises un entrepreneuriat durable. Vraiment, l'idée, c'est que tu ne t'éparpilles pas dès le début. C'est garantie anti-burnout et c'est aussi garantie anti-course aux followers, parce que c'est souvent l'erreur qu'on fait quand on démarre, passer trop de temps sur Instagram à regarder le nombre de likes et le nombre de followers, mais c'est pas là où tu dois mettre ton focus. Donc dans la méthode 50K, tu vas avoir des vrais déclics et tu vas surtout avoir enfin une vision claire et savoir ce qui te reste à faire pour passer à l'action dès aujourd'hui. C'est ma promesse dans la méthode 50K. Le lien est dans les notes de cet épisode. Profites-en tant que c'est gratuit et donc réclame dès maintenant ton accès à la formation. C'est gratuit, donc vraiment profites-en. Je m'arrête là pour la distribution de cadeaux et je vais laisser tout de suite place à ma conversation avec Eva de Eva Astro Yoga. Eva, je vais te demander d'abord de nous dire à qui vont s'adresser particulièrement les conseils que tu vas nous partager aujourd'hui pour réussir sa rentrée en tant que prof de yoga.
Bonjour tout le monde, c'est Eva. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que j'ai plusieurs casquettes. Mais aujourd'hui, je vais m'adresser aux profs de yoga qui ont des cours en studio, mais également une offre complémentaire en ligne.
Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. C'est quoi pour toi la checklist des indispensables pour une rentrée bien préparée et une rentrée réussie ?
Pour moi, le number one, c'est être au clair sur son positionnement. Autant quand vous vous adressez au manager que quand vous vous adressez à vos clients, comment est-ce que vous vous présentez? Moi, je suis Eva, astrologue et professeure d'astro-yoga, mais dans le back-office, derrière, je dis également au manager que je suis OK pour enseigner des remplacements de pilates, mais ce que je préfère faire, c'est enseigner l'astro-yoga. Une fois que vous êtes clair face au manager et face à vos clients, il faut que vous soyez clair face à la rémunération et face au niveau d'énergie en fait que vous allez donner dans chaque cours. Donc, négocier avec les managers, comment est-ce que vous allez être rémunéré, c'est-à-dire vos conditions d'annulation pour certaines séances, car ça arrive, mais également si vous pouvez négocier un petit bonus en fonction de l'affluence qu'il y a dans votre OK. Une fois qu'on est au clair sur son positionnement, sur sa rémunération, pour moi, il faut être clair sur son fameux écosystème d'offres. Et là, on rentre dans des termes un petit peu plus compliqués, mais où est-ce qu'en fait, cette année, vous avez envie de mener vos clients? Est-ce que vous allez vous contenter du modèle basique d'enseigner en studio et d'avoir un petit pack de cours en ligne, ou est-ce que vous voulez pousser vos clients vers potentiellement des ateliers, une retraite de yoga, voilà, être clair justement sur cet écosystème d'offres pour avoir plus de visuels pour vous, parce que comme je le disais avant, OK, j'ai cette semaine, 2 cours qui se sont annulés, c'est pas grave parce que le mois prochain, j'ai mon super atelier qui est déjà complet, donc je me fais pas de soucis pour ce qui rentre.
Par rapport à ça, effectivement, j'aime bien l'idée de se dire qu'un prof de yoga qui va bien développer son activité, c'est un prof qui va être connu et reconnu pour quelque chose en particulier, donc qui effectivement a un positionnement clair et va marquer sa différence, cette petite chose qui fait que pourquoi les élèves d'un studio vont peut-être plébisciter ou privilégier le fait de venir à son cours, par exemple. Mais est-ce que ça se joue au moment de la rentrée, ou est-ce que du coup, si je suis une jeune prof de yoga ou même une prof de yoga qui arrive dans une nouvelle ville ou peu importe et que je veux enseigner des créneaux en studio ou même j'enseigne déjà des créneaux en studio et j'ai envie d'enseigner peut-être dans d'autres studios qui me font envie ou voilà qui m'attirent, est-ce que ça se joue là maintenant au mois de septembre ou est-ce que ça se joue plutôt peut-être en fin d'année parce que j'imagine que les studios ils démarrent pas leur recrutement en plein lancement des nouvelles offres de la rentrée.
Alors, effectivement, une petite histoire sympa à raconter. L'année dernière, il y a tout pile un an par rapport au moment où on enregistre, je me suis fait démarcher sur Insta et on m'a demandé justement si, vu que mon positionnement était très clair sur les réseaux sociaux, si j'avais envie de enseigner un atelier d'astro-yoga dans ce studio-là. Et sur le moment, je me suis dit, bah, je sais pas, ça répond pas forcément à mon écosystème d'offres d'enseigner un petit atelier à droite à gauche dans un studio que je connais pas. Au final, j'y suis allée. Intuitivement, je ressentais l'envie d'y aller. Et en fait, au final, l'atelier a tellement marché qu'on en a relancé un autre. Au final, après, j'ai eu un créneau régulier dans ce studio-là et que à cette rentrée, je donne la moitié de mes cours dans ce studio.
Ouais, ok. Donc, effectivement, enfin, hein, je suis pour un positionnement clair parce que je pense que du coup, finalement, on voit là dans ce que tu nous racontes aussi que ça attire les opportunités à toi parce que du coup, on vient te chercher pour justement ce que tu renvoies de spécifique, de différenciant, ta touche à toi. Mais effectivement, si je suis prof de yoga et que là, comment, enfin, soit j'ai déjà trouvé des créneaux, ok, mais sinon, est-ce que tu penses qu'il y a une période propice pour démarcher les studios? Est-ce que c'est pas un peu tard si je m'y prends maintenant?
Franchement, autant y aller direct et se présenter parce qu'il se peut qu'il y ait des profs qui soient malades ou toujours que les studios aient sous le coude une liste de personnes. Pour appeler pour les remplacements. Et c'est comme ça, justement, que moi, je suis réussie à Paris, quand j'ai travaillé à Paris, à rentrer dans certains studios. C'est parce que j'étais super disponible, par exemple, dans la période de l'été, quand tous les profs de yoga prenaient des vacances, et ça c'est super. Mais ben, moi, à ce moment-là, dans le business, je débutais et je me suis dit, voilà, cet été, au moins pour tout le mois d'août, je reste sur Paris et je mais en disponibilité pour des remplacements. Et les studios ont vu qu'ils pouvaient compter sur moi, que au niveau des clients, bah, ça plaisait et que j'arrivais à fidéliser. Et c'est comme ça que quelques mois après, en fait, j'ai réussi à avoir des créneaux fixes chez eux et à devenir une de leurs profs de référence. Donc, effectivement, tout se joue pas à la rentrée, mais il faut se dire qu'il faut voir ça sur le moyen terme et pas forcément désespérer si on est en septembre et qu'on n'a pas forcément son planning idéal.
Ouais, par contre, effectivement, donc ne pas hésiter à aller dans les studios où on aurait envie d'enseigner et à proposer ses services pour des remplacements ou autres, ou voire même, j'imagine aussi qu'on peut démarcher directement les studios, mais on peut aussi, si on a des consoeurs qu'on connaît, elles-mêmes ont des créneaux dans les studios, leur dire, bah voilà, si jamais, pense à moi, je suis OK pour te remplacer, ça aussi, ça peut fonctionner.
Oui, et c'est comme ça que moi, en tout cas, je vois que ça marche le plus parce que même moi, de mon côté, en ayant l'expérience de mes consoeurs, le retour d'expérience sur tel studio, bah, je savais voilà que dans ce studio-là, ça fonctionnait comme ça, qu'il y avait ce type d'élèves. J'ai su si c'était un bon match ou pas avec moi, parce que j'avais envie d'enseigner ou non. Et justement, bah voilà, j'étais la référence de par mon amie pour m'introduire dans ce studio-là. Et j'ai même eu une amie qui est prof de danse, qui m'a référencée comme prof de yoga. Donc, comme quoi, ne pas hésiter à vraiment parler à tous les entrepreneurs à côté de vous. Même, voilà, cet été, j'ai eu des remplacements dans les campings grâce à un ami qui était lui coach sportif, rien à voir, mais au final, faut vraiment aussi se faire un petit réseau de soutien d'entrepreneurs à côté de soi parce qu'on peut tous se tirer vers le haut et il y a de la place pour tout le monde.
Et du coup, alors j'imagine, je suis prof de yoga, j'ai des créneaux dans différents studios, j'ai plein de questions qui me viennent, il faut que j'essaie de structurer mes pensées, mon esprit, mais Et comme tu disais, peut-être que j'ai négocié aussi un petit peu une partie variable sur est-ce que mes créneaux vont être remplis, etc. Alors, qu'est-ce qui se joue justement à ce moment-là de la rentrée quand on est prof comme ça, qu'on a son propre créneau dans un studio? Alors, est-ce que il faut faire simple, il faut tout donner d'un coup, comment on fait pour justement donner envie aux élèves de revenir dans ces créneaux? Tu parlais là de fidélisation, tu disais justement les studios ils m'ont gardé parce qu'ils ont vu que voilà, il y avait du monde. Est-ce que c'est que justement une histoire de positionnement ou est-ce que tu as d'autres conseils aussi par rapport à la manière, je sais pas, peut-être dont tu crées tes cours, dont tu communiques, voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir?
Oui, c'est très important. Il faut se rappeler que du moment où on passe l'entrée de la porte d'un studio au moment où on sort, il y a des choses qui vont se jouer avec les clients et qui vont être très importantes. C'est-à-dire que pour moi, ce qui marche le plus au niveau de la fidélisation des clients, c'est de les prendre en considération. Retenir des prénoms, leur demander à la fin du cours, ah, c'était ta première fois, bravo, t'as réussi certaines postures. Tu vois, si j'ai senti qu'un élève était en échec, je vais le voir et je lui dis, ah, est-ce que ça va? Bah, t'en fais pas. La plupart des personnes autour avaient déjà pris mes cours. Toi, c'est ta première fois. Félicitations. Ne t'en fais pas d'une séance à l'autre. Je refais certains asanas, donc tu vas les apprendre petit à petit. Donc j'essaye donc de rassurer, de les prendre en considération et comme tu disais, oui, d'adapter mes séquences de cours en fonction des élèves que j'ai dans mes classes. Et ça, c'est super important. Je ne sais pas forcément si on l'apprend trop en teacher training, mais nous, de notre côté à la maison, on crée notre séance sur le papier, mais après, il faut que cette séance, elle vive en vrai et qu'elle s'adapte aux élèves que vous avez en face de vous, à pas trop les mettre en situation d'échec. Justement, si un élève plus avancé que d'autres, bah, donner des petites options, par exemple en planche sur le côté, est-ce qu'on ne peut pas monter un genou ou faire la variation du grand écart si vous avez des flexi-yogis avec vous. Et c'est pour ça, il faut vraiment, si on veut une rentrée et une année réussie, se mettre dans la tête que on n'est plus juste professeur de yoga et qu'on a envie que notre business soit prospère sur le long terme. Et donc, il faut s'adapter face à la clientèle qu'on a en face de nous. Et moi, c'est un plaisir que mon cours du mardi et mon cours du jeudi ne soient pas le même. Ben voilà, ça m'enrichit en tant que prof de yoga et je trouve ça génial.
L'aide de créer la diversité. Et du coup, quand on enseigne en studio, quelle est la part selon toi de communication que doit avoir le professeur versus le studio pour justement dynamiser cette rentrée pour voilà.
Alors ça, je pense que c'est ma question préférée.
Ah. Tant mieux.
Parce que c'est très important, je ne sais pas si c'est en fonction de mon profil énergétique, je suis projecteur pour ceux qui suivent un peu les analyses HD de Cécile, mais c'est-à-dire que moi, j'ai pas énormément d'énergie à revendre. Et justement, j'anticipe un petit peu la question au piège ou erreur à éviter, c'est que parfois il y a des partenariats qui vont jouer sur le moyen et sur le long terme, et des fois en fait il y a des efforts qui valent la peine d'être donnés et d'autres non. Alors, je vais être encore une fois très transparente avec vous. D'un studio à l'autre, il se peut qu'on n'ait pas la même rémunération. C'est-à-dire que il y a la rémunération pour moi de base, c'est-à-dire voilà, tu as un tarif fixe et potentiellement une petite commission en fonction du nombre de l'affluence ou pas du tout et OK. Et d'autres partenariats avec d'autres studios où justement en fonction du nombre d'élèves qui vont s'inscrire, eh bien la rémunération va bouger. OK. Et justement moi c'est plus intéressant pour moi qui ai 10, 15 élèves dans ma séance. Dans les studios où la rémunération va bouger, que bah, dans un studio où les créneaux sont un petit peu fixes. Et ça, je pense que les managers des studios ont du mal à le comprendre. Et moi, je me suis parfois un petit peu bataillée pour ça et j'ai même rompu parfois certains contrats où, en fait, ben, les studios attendaient trop des profs que on mette autant d'investissements dans notre propre business perso, de notre propre business en ligne, dans nos propres événements perso que dans leurs propres cours. Et pour moi, parfois, les managers, ils ont vraiment du mal à comprendre que les cours qu'on enseigne chez eux, en fait, certes, ça nous rapporte de la rémunération, ça nous ouvre une plus grande liste de clients, mais En vrai, les cours dans leur studio, l'enrichissement, il va directement au gérant du studio. Mm-hmm. C'est pas les cours d'Eva. Et parfois, voilà, les managers ont un petit peu de mal à comprendre que, effectivement, bah, je m'investisse plus pour mes propres ateliers, ma propre retraite de yoga, que pour leurs propres cours, et faire attention parfois à pas trop donner. Justement, à la rentrée, il peut y avoir les portes ouvertes. Ok, à négocier. Est-ce que pour les portes ouvertes, c'est ok pour vous de donner un cours gratuit? D'accord, mais est-ce que vous allez rester toute la journée gratuitement là-bas? Enfin, il y a ce qu'un manager peut donner, c'est normal parce que c'est son propre studio. Enfin, un gérant de studio, c'est son propre business. Mais vous, faut vous rappeler que, en fait, vous pouvez pas placer le même temps dans votre semaine pour la promotion, pour la gestion de tel ou tel studio, parce que vous travaillez pour plusieurs personnes et surtout, en premier, vous travaillez pour vous.
En fait, est-ce qu'on ne peut pas se dire, soit effectivement, je ne suis que un prof qui donne des cours en studio, je ne recherche que ça et je suis un peu dans un mindset finalement salarié, c'est-à-dire je viens, je donne mon cours et peut-être que je fais le choix et je n'ai pas envie de m'impliquer dans une communication personnelle, d'avoir mes propres réseaux et ça me va très bien de venir, d'enseigner mon cours, de repartir et d'être payé mon créneau fixe, peu importe le nombre de personnes finalement, puisque je suis payée pour l'heure, entre guillemets. Ouais. Et je laisse la responsabilité du coup au studio de toute la communication. Je fais mon job et je le fais bien, mais voilà, avec ce mindset finalement de salarié. Je pense qu'il y a certains profs peut-être qui fonctionnent comme ça. Et d'autres qui ont le souhait à côté de développer effectivement leur com, de développer leur base élève, leur propre base élève à eux, d'organiser leurs propres événements. Donc finalement, c'est un moyen de connecter avec des élèves qui demain vont devenir tes propres clients. Et donc là, effectivement, dans ce cas-là, va se jouer un accent sur la communication plus important. Mais du coup, ça veut dire aussi que le studio doit, enfin voilà, il peut compter sur toi pour promouvoir les événements, mais il doit y avoir une partie variable parce que plus tu communiques et plus tes cours sont remplis, plus tu veux être payé en fait. Et donc là, on rentre dans un mindset d'entrepreneur, où effectivement, soit plus je travaille, plus j'ai de monde, plus je gagne, ou alors effectivement, ok, je communique, etc. Mais parce que, enfin, in fine, c'est aussi pour gagner plus ou pour développer mon propre business à moi, quoi.
Voilà, et ça peut être ok de partager un visuel de planning, un visuel de promotion des cours, mais que ce soit pas vous qui fasse tout à 100% pour promouvoir vos propres classes et qu'après le studio ne vous reproche pas « Ah, ton cours ne marche pas, faut que tu ramènes plus de monde ».
Je crois qu'effectivement, il faut que le studio soit bien au clair sur ce qu'il attend, ce qu'il demande et la rémunération qu'il donne par rapport à ça. Parce qu'effectivement, je pense qu'aujourd'hui, et ça le sera de plus en plus d'ailleurs, puisque les profs de yoga voient bien qu'ils peuvent aussi vivre pleinement de leur activité de plus en plus en étant autonomes, en trouvant leurs propres clients, etc. et sans forcément avoir toujours besoin des studios. Mais effectivement... Je pense que les studios doivent être clairs là-dessus que, ok, si je veux que mon prof de yoga communique vraiment, apporte du monde au studio, alors il doit y avoir une partie variable parce que du coup, ça veut dire que, voilà. Et à l'inverse, sinon, bah, je peux choisir aussi d'avoir des profils plutôt, entre guillemets, salariés, même s'ils sont indépendants, et peut-être les décharger complètement de cette partie com, parce que peut-être qu'il y a des profs de yoga qui veulent pas s'y mettre, qui aiment pas ça, qui veulent pas enseigner X cours, qui veulent pas gagner leur vie à 100% avec ça, et à qui ça convient très bien. Mais donc, faut que tout le monde soit au clair, quoi. Du coup.
Voilà. C'est ça, c'est justement par rapport à la thématique de la rentrée, c'est au plus tôt vous êtes clair avec ça, au plus tôt en fait vous sauvez un petit peu votre peau, parce que parfois c'est un petit peu le fouillis, et quand on se retrouve face au studio, ils nous demandent des choses, et vu qu'on n'est pas très clair avec nous-mêmes, on n'ose pas forcément dire non, en tout cas moi, c'est ma personnalité, et voilà, plus mes barrières sont listos, plus tout est carré en fait, et plus l'entente est prospère.
Ouais, c'est clair. Et les collaborations durent aussi. Et du coup, c'est tout bénef pour tout le monde. C'est hyper intéressant et enrichissant. Bon, c'est plutôt une discussion ouverte, mais du coup, je pense que voilà, il y a des choses qui sont intéressantes à rappeler pour les deux parties. Est-ce qu'il y a des pièges, du coup, d'autres erreurs à éviter que tu voudrais nous partager pour ne pas se louper sur cette rentrée?
Ouais. Moi, ça m'est arrivé en erreur de bah, justement dire oui à tout parce que je voulais remplir mon emploi du temps. Et bah, petit 1, collaborer avec des studios qui ne fitaient pas avec mon positionnement, c'est-à-dire avec lesquels je ne pouvais pas forcément parler de spiritualité, ou du moins les clients n'étaient pas du tout réceptifs à ça. Et bah, voilà, enfin, moi, c'est ce que j'aime le plus dans le yoga. C'est pas seulement les asanas, c'est tout le côté spirituel qui va avec. Et où, du coup, je pouvais parfois me retrouver un petit peu frustrée, en fait, de devoir faire des cours en mode de HIIT yoga, même si j'aime ça, c'est pas ce qui fait vibrer le plus mon âme. Donc voilà, collaborer avec des studios qui fitaient pas forcément avec ma personnalité de prof, et ou justement collaborer pendant trop longtemps avec des studios, par exemple, qui proposaient des cours à très bas prix. Ça, je l'ai fait pendant longtemps, et c'était super. Enfin voilà, ça m'a beaucoup aidée au début à avoir plein de créneaux chez eux, justement, à avoir plusieurs clients, en fait, parce qu'ils brassaient énormément de monde avec leur offre à bas prix. Mais après, moi, de mon côté, quand j'ai commencé potentiellement à louer une salle et du coup à faire payer plus, bah forcément, ils préféraient aller dans ces cours à prix, ou quand j'ai commencé à faire mes propres ateliers ou mes propres retraites. J'ai pu me sentir un petit peu freinée parce que, on m'a beaucoup connue pour des cours qui étaient accessibles à un prix plutôt réduit.
Oui,
Donc,
donc ça, après,
voilà.
finalement, ça vient court-circuiter ton souhait de développer autrement sur d'autres un d'autres niveaux de prix, un peu t'es, du coup, ça vient t'étiqueter un peu prof pour low cost, quoi, entre guillemets,
Voilà.
finalement. Et du coup, alors j'imagine, enfin tu l'as dit très justement, on fait ça un peu peut-être au début, on a tendance à tout accepter et à tout prendre parce qu'on veut remplir ses créneaux et parce que bah on se dit que c'est ça qu'il faut faire pour gagner sa vie. Alors avec un peu de recul maintenant et si bah on veut bien écouter la sagesse et l'expérience de ceux qui sont passés par là, du coup comment je fais alors? Et justement est-ce que si j'accepte pas tout et n'importe quoi, je vais pouvoir mettre cette énergie au service justement de développer d'autres offres, d'autres activités à côté. Est-ce que c'est ça aussi qu'il faut voir? Mais comment le voir? Parce que voilà, j'imagine que quand on démarre, on se dit, bah voilà, la solution, c'est de remplir mon agenda, d'avoir tous mes cours, de savoir que je vais faire X cours, donc je vais gagner tant, etc. Mais donc, c'est quoi l'autre solution et surtout comment on fait pour l'appréhender sereinement, quoi?
Oui, bah, faut savoir que j'ai un petit peu de bouteille maintenant, vu que ça fait peut-être 5 ans que j'enseigne. Et justement, un autre piège, c'est de pas forcément oser et de partir avec mes idées reçues dans ma tête. J'avais à un moment un créneau, enfin plusieurs créneaux dans un studio, où bon, au niveau de la rémunération, c'était un des studios qui me payait, voilà, dans les plus bas. Et je suis partie et j'ai dit, bah voilà, parce que bah, la rémunération était plus alignée, et les filles m'ont dit, ah mais en fait, tu aurais pu négocier plus, Eva. Genre, c'était toi, tes cours étaient tout le temps remplis. Pourquoi est-ce que tu n'as pas osé me demander, en fait? Et parfois, on n'ose pas. Et donc voilà, petit conseil déjà, c'est tenter, oser. Et ensuite, l'expérience d'une de mes collaboratrices en yoga, c'est que ben, elle, justement, elle a choisi un partenariat sur le moyen, voire le long terme. Il y avait un nouveau studio yoga qui s'ouvrait, et bah, voilà, le studio yoga était nouveau, et donc sa rémunération à ma collaboratrice était assez faible par rapport aux autres cours. Voilà, elle était payée moins bien, mais elle sentait que bah, bam, au niveau de la communication, la gérante du studio, elle était très claire, qu'elle avait une vision sur le long terme, que c'était pas une prof qui ouvrait son studio sans forcément savoir où elle allait. Et au final, ben, aujourd'hui, des années après, effectivement, c'était une belle collaboration sur le long terme parce qu'aujourd'hui, elle fait des formations avec eux. Enfin, ça lui rapporte une bonne partie de son chiffre d'affaires. Et parfois, en fait, ben, faut juste tester et oser ajuster, oser partir d'un studio qui ne nous plaît plus, oser demander une augmentation par rapport à l'affluence qu'il y a dans ses cours. Il faut tester, se tromper et réussir à positionner et éviter
Oui,
en fait
oser dire les
ouais
choses quand on sent
voilà
que soit ça fit plus, soit la rémunération, plutôt que peut-être de partir ou de quitter.
ouais
Si c'est
ouais
en tout cas un cours, un studio ou quoi qui nous plaît,
mmh.
bah, tenter de demander et d'exposer les choses, effectivement.
Ouais, et puis savoir bah, qu'est-ce qui nous convient. Je sais que pour certaines amies, ce qui est très important, c'est que le lieu soit très beau, ou le lieu soit proche de chez elles, ou qu'il y ait beaucoup d'élèves dans leur cours. Moi, ce qui va être très important pour moi en tant que prof, c'est que bah, justement, comme on en parlait, ça veut dire que bah, le studio fait sa part de communication. C'est pas à moi qui dois m'épuiser à ramener des élèves à chaque fois. Et donc, c'est savoir qu'est-ce qui est important pour vous. Tel que pour vous, ça va être bah, que tel studio vous propose un double ou un triple créneau.
Et alors, si je démarre cette rentrée et que j'estime que mon agenda n'est pas assez rempli, j'ai pas réussi à avoir assez de créneaux, peut-être que j'ose pas encore, que je suis pas encore connue, que je sais pas encore trop comment m'y prendre. Alors, comment je peux occuper mon temps en tant que prof de yoga?
Mais franchement, ça c'est génial parce que déjà, ce genre de personnes, elles évitent le piège de s'embourber dans trop de cours dans la semaine. On se retrouve avec 10 heures, 15 heures de cours, plus après sa vie de famille, plus sa vie perso à gérer. Et au final, on a la tête dans le guidon, dans notre planning, et on n'arrive pas à avoir à moyen terme, c'est-à-dire que ben, on n'arrive pas à se prévoir du temps pour planifier potentiellement un atelier de rentrée back to basic, un atelier, je sais pas moi, sur l'équinoxe d'automne. Et justement, quand vous avez ce temps-là, essayez bah, d'agrémenter en fait ce qu'il y a déjà. Donc potentiellement la préparation d'atelier, comme on l'a dit, avec son écosystème d'offres qui ne va pas seulement à des cours de yoga au studio. Donc voilà, les ateliers qui fonctionnent très bien et qui peuvent ramener une autre clientèle. Par exemple, vous vous êtes dit, OK, j'ai pas de cours de yoga le dimanche parce que c'est dans mon emploi du temps, je veux respecter ça le dimanche sans famille, mais j'accepte que un dimanche tous les 6 semaines, je donne un atelier, c'est super. Et voilà, premier conseil,
Donc,
planifier
investir
justement.
son temps sur commencer avec des petites offres comme ça, au lieu que ce soit un cours, bah, proposer peut-être un atelier. Donc, du coup, ça va être aussi de développer plus sa communication personnelle pour promouvoir ses propres ateliers. Donc, ça va être de venir ajouter d'autres petites offres en dehors de ses cours, ne pas peut-être justement s'épuiser à vouloir à tout prix trouver d'autres créneaux. Se dire, bah, OK, c'est la chance pour moi de diversifier mes propositions, de me créer ma propre base élève, de faire mes propres événements. Et du coup, bah, finalement, parce que évidemment, c'est bien de pas avoir trop de créneaux pour éviter le burn-out et voilà le symptôme de plein de jeunes profs de yoga qui s'épuisent à donner trop de cours. Mais on comprend bien aussi que quand on veut en vivre, bah, ça peut être stressant, de se dire, bah, j'ai pas cette sécurité financière, j'ai pas assez de cours, etc. Donc, c'est justement de jouer ce gap en commençant à créer des événements, des choses pour soi.
Ouais, c'est ça, et c'est pas grave, au début, ils seront 4, ils seront 6, et puis au final, à la fin de l'année, ils seront 20, et ce sera génial, quoi. S'autoriser parfois aussi les échecs, quand le fait que, ben, effectivement, votre premier atelier ou votre première retraite ne sera pas sold out en 48 heures, mais c'est pas grave. C'est petit à petit que ça vient. Et justement, petit à petit, on arrive à prendre du recul, sachant qu'il peut y avoir certains temps morts parfois dans l'année, et justement se dire que, ben, OK, en décembre, c'est les vacances de Noël, il y a par exemple potentiellement le studio de yoga qui ferme, bah, qu'est-ce que je fais? Voilà. Bah, justement, c'est peut-être le moment d'utiliser ce temps mort-là où il y a moins de cours en décembre pour dire aux élèves début décembre, oh, je vous ai fait un petit cadeau de Noël, donnez-moi votre adresse mail à la fin du cours et je vous envoie ma 20 minutes routine du matin, Miracle Morning. Et comme ça, tu récupères des adresses mail.
Ouais, qui te permet du coup par la suite de venir proposer d'autres choses, etc., etc. Donc ça, c'est effectivement une très bonne idée. Ça me faisait penser à autre chose. Oui. Alors, comment tu gérais justement ton organisation entre, bah, je dois préparer des cours pour les studios, j'ai des déplacements, j'ai X créneaux, j'ai envie d'organiser aussi des choses pour moi. Donc, voilà, comment t'organises ça, tes semaines, à combien de temps tu planifies ou tu te dis, bah là, je vais mettre un atelier tel jour, telle semaine, tel week-end. Vraiment, là, en termes pure organisation, comment tu conseilles de démarrer, de s'y prendre, quels outils peut-être aussi, je sais pas, mais quels sont tes conseils?
Oui, ben justement, comment est-ce que je m'organisais de point mal? C'est-à-dire que franchement, je pensais vraiment sur le court terme parce que j'étais pas à ce stade-là en fait de ma maturité en tant qu'entrepreneur. En fait, j'étais un bébé yogipreneur et à chaque fois, je pensais sur le court terme ou sur le moyen terme. Et en fait, je me retrouvais sur une année, mais ah, mais en fait, j'ai pas vraiment pris de vacances. Et en fait, il y a vraiment des temps forts et des temps morts dans l'année. Et cette année, vraiment, j'ai essayé de faire un rétro-planning et d'incarner mon nœud nord en vierge pour ceux qui s'y connaissent un peu en astro. Voilà, c'est mon chemin de vie. Je suis le chemin de vie de l'organisation. Donc, cette année,
T'as décidé de t'y mettre.
j'ai pris un temps en août, en fait, pour planifier un petit peu mes 3 prochains mois et potentiellement le reste, justement pour ne pas avoir peur de manquer d'argent, littéralement, hein, d'être dans les peurs. C'est-à-dire que, OK, en amont, je me suis dit, tiens, mi-septembre, il y a l'équinoxe d'automne, ça pourrait plaire. En décembre, c'est Noël. Alors, est-ce que je fais pas une offre début décembre avec des cartes cadeaux ou une offre spéciale, voilà, pour les cadeaux de Noël? Tiens, donc du coup, il y a décembre, mais décembre, moi, je veux du temps en famille. Sauf que, on le sait, janvier, c'est la deuxième rentrée des profs de yoga, en vrai. Donc, est-ce que c'est le 26 décembre, juste après la dinde, que je vais bosser ma rentrée de janvier, alors qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent en janvier aussi? Non, c'est en amont. Donc, voilà, regardez un petit peu votre année et vous dire, ah, OK, voilà, telle période, il y a des temps forts et plutôt des temps morts. Et ne pas avoir peur des temps morts, les utiliser pour prendre plus de temps. Donc là, c'était l'organisation un petit peu à moyen voire long terme. Et l'organisation à court terme, c'est bloquer des créneaux dans la semaine parce que sinon, vous n'aurez jamais le temps de bosser sur votre business. Okay? Il y a vraiment une différence à bosser dans son business, c'est-à-dire voilà,
Enseigner.
travailler, ouais, voilà, enseigner, créer des ateliers, potentiellement chercher un lieu de retraite, je ne sais quoi, travailler dans votre business et travailler sur votre business, c'est-à-dire peut-être faire d'autres formations, rejoindre YogiBusiness justement pour avoir une idée plus claire de ça. Non, mais en vrai, c'est vrai.
Oui, non, mais effectivement, c'est de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me manque aujourd'hui pour développer ce que j'ai envie de développer, donc quelles sont soit les compétences business, soit effectivement peut-être certaines formations pour encore plus se spécialiser ou autre. Et c'est aussi, voilà, comme tu le disais, travailler sur son business, c'est aussi un peu bah, planifier ses marronniers à soi, donc c'est-à-dire ses temps forts à soi dans l'année, les moments où, en fonction de notre thématique, ou de notre vie personnelle, bah, on sait que nous, va falloir mettre effectivement, que ça peut être un temps pour sortir une nouvelle offre ou autre. Et ça, bah, il n'y a que si je prends le temps de travailler sur mon business et donc de placer des créneaux pour faire ça. Alors après, dans ma semaine, dans mon mois, dans mon trimestre, voilà, avec plus ou moins de structure ou de souplesse, de flexibilité. Mais en tout cas, c'est essentiel. Sinon, je suis que dans la fuite en avant et la course du
Ouais,
temps.
c'est ça,
Je
exactement
suis
comme
dans
tu
le
dis.
court terme et je suis dans l'énergie de manque en permanence parce que j'ai zéro visibilité, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce qui va me permettre d'atteindre mes objectifs, qui, quoi, combien.
Ouais. Et justement, comme tu dis, vraiment, le mindset est vraiment hyper important parce que on peut, entre guillemets, foirer sa rentrée. Et je discutais avec une copine à moi avec qui j'ai fait mon teacher training, et elle me disait que ben à cette rentrée, elle avait un petit peu des cours éparpillés à droite à gauche, un planning un petit peu éclaté, et qu'elle, ce qui lui convient plus, c'est d'avoir une grosse journée potentiellement le lundi, le mardi, le mercredi, et la fin de semaine un petit peu plus ledge pour justement avoir du temps et se caler un rendez-vous avec elle-même tous les jeudis matin. Et ben j'ai ce créneau-là où je vais peaufiner mon site web, où je vais réfléchir à ma communication, où je vais écrire ma newsletter.
Ouais, donc ça, c'est aussi effectivement important. Et du coup, par rapport au... tu disais, tu planifiais certains événements donc en ton nom dans l'année. Donc ça peut être une retraite, ça peut être un atelier, un workshop, un programme en ligne, même peu importe. Combien de temps tu prévois en termes de rétro-planning? Enfin, c'est quoi pour toi ta moyenne entre guillemets? Évidemment, tu es toujours sur la même thématique, tu communiques régulièrement, etc. Mais donc du coup, tu te laisses combien de temps, t'anticipes de combien de temps pour promouvoir tes événements?
Ok, alors le plus gros, c'est les retraites de yoga, et je pense que ça, c'est un super tips. Ma retraite de yoga, je la sors 6 mois à l'avance. Ok, mais moi, c'est pas je m'y mets 6 mois à l'avance. C'est-à-dire que moi, 8 mois à l'avance, on va dire, je commence à chercher le lieu, je commence à réfléchir à une idée de thématique, je commence à teaser dès le début à mes élèves. Tiens, je cherche un lieu. Est-ce que celui-ci pourrait vous plaire? Ah, oh, justement, je fais une sorte de throwback. Ah, c'est ça, c'était la séance pendant la retraite de l'année dernière. Est-ce que cette année, on remet de la danse intuitive? Ou est-ce que cette année, je vous fais tester le HIIT yoga? Je ne sais quoi. Donc voilà, le long terme pour les retraites, parce que c'est une offre que je vends cher. Moi, c'est mon offre la plus chère, mes retraites de yoga. Donc ça, je vais avoir du temps pour la promouvoir, pour que les gens, en fait, puissent se préparer, potentiellement mettre en place un paiement plusieurs fois. Ok. Ensuite, la deuxième chose qui est la plus chère chez moi, ça va être par exemple soit mes programmes en ligne ou soit peut-être potentiellement des ateliers. Donc ça, on veut avoir prévu ça quelques semaines à l'avance en termes de communication. Moi, je le communique environ 3 semaines à l'avance. Okay. Mais moi, dans ma tête, je me suis dit à peu près, on va dire, franchement, sur 3 mois, c'est bien. Ouais. Dire ok, les 3 prochains mois c'est pas trop loin non plus, on arrive à jouer dessus, et pour les petits événements, franchement, ça va être à la semaine, c'est-à-dire que en début de semaine je me dis ok, cette semaine je mets quoi en avant, est-ce que je mets ma consultation d'astrologie, ma consultation de naturopathie ou de réflexologie, voilà, ou est-ce que je mets plus en avant justement des feedbacks de mes élèves, voilà.
Donc en fonction effectivement des événements, de leur de la porte d'entrée en termes de prix, durée, de la nécessité de planifier, de la proximité avec toi, etc. Tu vas jouer effectivement sur le temps que tu vas communiquer, promouvoir et préparer du coup aussi tes élèves à l'achat et tes clients à l'achat avec toi, quoi.
Ouais, et aussi se pencher sur la question de votre offre, est-ce qu'elle n'a pas une temporalité particulière? Par exemple, moi, il y a une de mes séances d'astrologie à l'écrit qui s'appelle « Ton année astro » où je viens dire les 12 prochains mois, qu'est-ce que l'astrologie te présage en fonction de tes propres placements. Bah ça, bam, j'en fais la promo fin décembre, début janvier, parce que c'est le moment où on a envie de se dire « bah tiens, qu'est-ce que les 12 prochains mois me réservent en… » au niveau astro, enfin, y a vraiment des temporalités comme ça qui peuvent se jouer.
Oui, selon la thématique, effectivement.
Ouais.
C'est ce qu'on appelle, enfin, quand on parle de calendrier des marronniers, c'est les événements inscrits dans le calendrier du type fête du yoga, Black Friday, je sais pas quoi, mais on a nos propres marronniers à nous, effectivement, notre propre actualité aussi en fonction de notre thématique et encore aussi en fonction de nos périodes de congés, notre manière de vivre, nos voyages de planifier ou autre.
Exactement.
Donc, effectivement, c'est aussi venir gérer ça. Écoute, merci Eva, c'était super intéressant d'avoir cette discussion libre. Alors je dirais qu'on est allé un petit peu plus loin que vraiment l'organisation de rentrée. On a parlé un peu d'organisation en général ou de comment peut se jouer une année quand effectivement on commence à donner des cours en studio ou on a des cours en studio, mais on a aussi envie de développer d'autres choses à côté, parce que c'est ce qui va nous permettre de vivre de notre activité. Est-ce qu'on a oublié des choses? Est-ce que des choses auxquelles tu penses?
Un petit conseil que je pense que les auditeurs n'osent pas faire, c'est un appel à l'action à la fin de leur séance. Je sais, ça fait peur comme ça, on se dit « Ah, oh, mais je suis pas marchande de tapis, je suis prof de yoga. » Mais en fait, si vous n'osez pas rediriger vos élèves vers votre offre, en fait, vous bloquez potentiellement un élève d'avoir la chance de travailler avec vous. Faut le voir vraiment comme ça, c'est un cadeau que vous leur faites en leur disant, t'as aimé, t'as kiffé ma séance? Ah, oublie pas, dans un mois, il y a cet atelier-là. Ou moi, un des premiers appels à l'action que j'ai fait au tout début, je me rappelle de ma carrière de prof, c'est de dire à la fin, est-ce que vous voulez, pour ceux qui veulent s'inscrire à ma newsletter et suivre un peu mes cours, venez, donnez-moi votre mail à la fin, à la fin de la séance. Ça peut dire, ça peut être comme ça, mais ça peut être négocié par rapport à un freebie. On a envie de dire aux gens, moi, j'ai créé une routine de 15 minutes de réveil tous les matins. Si vous voulez, je vous l'envoie, donnez-moi votre mail. Bref, il faut que vous passiez à l'action par rapport à ce marketing-là et de pas attendre en fait que les élèves vous trouvent sur Instagram, trouvent votre site internet. Ça peut être distribuer des flyers, distribuer des cartes de visite, Faut que
Donc
vous
là,
pensiez.
tu parles de, par exemple, que je démarre ou j'ai des créneaux en studio. Comment je profite effectivement et j'oublie pas de faire le job à la fin du cours pour dire, bah, pour aller plus loin ou pour me retrouver ou pour recevoir toutes les infos, pour être sûr de rien manquer. Enfin, peu importe. Et d'ailleurs, on peut présenter justement de différentes façons pour pas que ça soit redondant. Et donc d'inviter les gens, donc soit à te laisser leur adresse email quelque part, qu'on sente à recevoir ces
Oui,
informations.
bien sûr.
Soit bon bah directement peut-être leur donner un lien ou quelque chose, enfin ou leur dire d'aller s'inscrire, mais effectivement récolter les adresses mail, ça me paraît. Alors moi ma alors oui toi c'est dans le cas où tu es en studio, donc je sais pas, enfin moi je sais pas si ça se négocie avec le studio de récupérer les adresses email de ses élèves, mais du coup pour le coup j'ai travaillé avec un prof de yoga donc qui fait sa rentrée avec des espèces de bulletins d'inscription, hein, comme on voit encore beaucoup aujourd'hui.
Mon Dieu, arrêtez,
Même si
arrêtez.
moi, bon voilà, en tant que enfin spécialiste dans le digital, ok. Mais du coup, c'est déjà là la première étape pour récupérer les adresses mail, c'est tout simplement d'avoir des formulaires d'inscription en ligne, à minima, quoi. En fait, effectivement, je pense que ça peut commencer par là pour récupérer les adresses email de ses élèves déjà.
Et tu vois, par rapport à ce que tu disais, la question de ah, est-ce que ça se fait, est-ce que ça se négocie par rapport au studio de yoga, je voudrais aussi rappeler que bah, les élèves, ils appartiennent pas forcément au studio et au fait que ben parfois les studios oublient que les élèves reviennent aussi beaucoup pour les profs. Et que faut pas laisser de côté l'importance de son prof parce que enfin c'est comme ça que les élèves reviennent en fait. Et effectivement il y a des studios avec lesquels on
Disons,
s'entend
ça peut
plus ou moins
aider à
bien.
la notoriété et au développement aussi du studio.
Du
Après, je pense
studio.
que ça, c'est juste une histoire. Enfin, j'ai envie de dire, peu importe, faut juste que les choses soient dites, soient
Oui,
claires,
voilà.
énoncées et ne pas hésiter, soit en tant que prof de yoga, à poser aussi ce genre de questions. Et comme tu l'as dit pendant une partie de cette interview, à savoir poser son cadre, ses limites, oser demander. Voilà. Après, tant que les choses sont claires. Voilà, le studio fait pas, mais au moins, on sait à quoi s'attendre et on peut prendre ses décisions, quoi.
Oui, voilà, ça peut être simplement demander au studio, ah, oh, ça te dérange si je mets mes cartes de visite sur l'accueil et si j'en donne aux élèves. Enfin, ça peut être très simple. Et après, dans une discussion à eux à la fin, quand tu partages une carte de visite ou non, hein, en fonction de comment vous le sentez, et ben voilà, vous allez plus ou moins loin. Mais franchement, des petits passages à l'action à la fin d'un cours, ça peut être juste rejoignez-moi sur Instagram via
Oui.
Eva Astro Yoga. Franchement, c'est très simple et ça fonctionne vraiment.
Mais je suis assez d'accord et moi je trouve j'aime beaucoup quand un cours se termine par une nouvelle proposition en fait. Alors bon peut-être parce que c'est aussi mon métier donc j'apprécie. Mais voilà je pense que je le disais aussi dans une précédente interview en fait les élèves, les clients, les gens ont souvent envie d'aller plus loin mais savent pas comment s'y prendre
Ben
ou
oui.
savent pas ce qui existe si on leur dit pas. Ou n'ose pas demander, parce que des fois on peut être aussi timide, introverti ou autre, et pas oser aller vers le prof, poser des questions, demander des choses. Donc plus effectivement on va être force de proposition, proposer de continuer à travailler ou à pratiquer à nos côtés, etc. Bah mieux c'est, je pense. Et donc et j'en parle souvent, mais c'est ce qui s'appelle pour moi aussi effectivement de la vente éthique, c'est de donner toutes les informations possibles à son client ou à son élève pour que lui puisse choisir en toute connaissance de cause ce qu'il a envie et en tout cas qu'il ait des possibilités aussi de continuer avec avec son prof quoi. Ben, merci beaucoup Eva. Ton
Avec
actualité à toi,
plaisir.
c'est quoi du coup pour la rentrée?
Moi, j'ai passé tout mon été à vous créer le programme d'Astro Yoga idéal pour baigner dans les énergies astro de la rentrée. C'est le programme Alchimie. J'ai vraiment mis tout mon cœur. C'est un programme en ligne, voilà, de 6 semaines pour reprendre ses pleins pouvoirs, axé sur la thématique de la libération émotionnelle. Et j'ai juste trop hâte. On démarre le 18 septembre, mais vous pouvez nous rejoindre quand vous voulez. Bah
Donc, on
voilà,
retrouve
venez.
les infos sur ton compte Instagram, j'imagine.
Voilà, et sur mon site internet que j'ai pas fait aussi tout cet été. Voilà, donc tout est prêt pour
Ah,
vous
très bien.
accueillir.
Tu as suivi les
Venez.
conseils de mon dernier épisode, alors, qui était sur quoi travailler cet été.
Exactement.
Après, moi, je suis partie en vacances, je vous ai laissé avec cet épisode-là, mais je vois que vous êtes passé, vous avez actionné. Donc, du coup, tu vas aussi enseigner en présentiel, si j'ai bien compris. Tu reprends quelques créneaux en présentiel.
C'est ça, après Paris, je me suis réinstallée maintenant dans le sud, à Fréjus. Donc voilà, si vous êtes des yogis du Var, venez faire mes séances.
Yes. Et toujours des bijoux?
Aussi, mais justement, j'ai décidé par rapport à ma marque Evastrology, de création de bijoux en pierre naturelle, d'avoir des temporalités. Et la prochaine fois que vous pourrez vous procurer mes bijoux, ce sera justement pour Noël. On va créer des bracelets pour
Super.
l'occasion.
Alors moi j'adore ça, j'adore quand il y a des offres avec des saisonnalités. Ça, typiquement, ce sont les business de multi-passionnés, effectivement, et qui savent et qui ont bien compris comment ils fonctionnaient, qui savent gérer avec de la saisonnalité et donner de la place à différents business en fonction des périodes. Et donc là, bah, c'est la rentrée. Programme de yoga en ligne, courant en studio. Et puis, quand viendra le temps de faire des cadeaux, les petits bijoux. Donc, je trouve ça super. Et c'est un bel exemple aussi, justement, pour les multipassionnés. Et quand on a plusieurs offres et qu'on se diversifie, c'est top. Merci beaucoup, Eva. Comme d'habitude, c'était hyper quali. Des
Avec
super
plaisir.
conseils, très variés. C'était super sympa d'avoir cette discussion avec toi. Et puis, bah, écoute, belle rentrée à toi et à très vite. Une autre preuve de yoga, un autre style, une autre expérience. D'autres conseils. J'espère que cet épisode t'a plu également. N'hésite pas à nous le faire savoir en le partageant en story et en nous taguant toutes les deux @evastroyoga et @yogibizcoaching. Yogibiz Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si tu as bien suivi, il nous reste donc un épisode avec Perrine. On se retrouve dans cet épisode très vite. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.